Vous écoutez une conférence de Rudolf Steiner appelée « Bouddha et le Christ ». Cette conférence a été donnée à Berlin le 2 décembre 1909. Elle est extraite du livre « Psychologie et vie intérieure »,« Métamorphose de la vie psychique »,« Voix de l'expérience intérieure », paru aux éditions Fischbacher en 1970, bibliographie GA58-GA59, la traduction de l'allemand en français est de Violette Rivierez. Le lecteur est Stéphane Lejoly. Bouddha et le Christ. Le mouvement anthroposophique, depuis sa création, a été et est encore souvent confondu avec certaines tendances et aspirations actuelles. On lui reproche notamment de vouloir transplanter certains courants spirituels de l'Orient, et principalement le bouddhisme, dans la culture occidentale. Le thème Bouddha et le Christ est intéressant pour l'investigation spirituelle parce qu'il met en cause d'un côté la signification de la religion bouddhique et de l'autre celle du christianisme. Il s'agit ici d'observations au sens scientifique et d'un point de vue spiritualiste sur les phénomènes et les événements du bouddhisme et du christianisme. Qui s'est quelque peu intéressé au bouddhisme sait déjà que son fondateur, Gautama Bouddha, a toujours écarté toute question relative à l'évolution du monde et à l'origine de l'existence et qu'il refusait d'en parler. Il parlait uniquement de la façon dont l'être humain pouvait parvenir à une existence satisfaisante en soi. Ainsi, pour ce qui est de ces deux problèmes que l'anthroposophie n'écarte pas, bien au contraire, on ne peut la confondre avec le bouddhisme. Quant à la conception particulière de la science de l'esprit, qu'il a fait comparer indéfiniment et de plus en plus au bouddhisme, à savoir la réincarnation et le fait que la cause spirituelle d'incarnation passée transite dans des vies ultérieures, il faut dire sans embâge, il est étrange d'affirmer que cette conception de la réincarnation et des vies terrestres répétées soit bouddhique. Étrange, parce qu'il faudrait enfin comprendre que la science de l'esprit ne s'attache pas à telle ou telle dénomination, mais seulement à la vérité, tout à fait indépendamment de tel ou tel courant de quelque époque qu'il soit. Que l'enseignement de la réincarnation ou des vies terrestres répétées se trouve également dans les conceptions de Gautama Bouddha, bien que sous une toute autre forme, cela ne signifie rien de plus pour l'anthroposophie que par exemple le fait de trouver les éléments de la géométrie chez Euclide. De même qu'on ne peut dire d'un professeur de géométrie qu'il fait de « l'euclidisme » entre guillemets, de même, le reproche de « bouddhisme » entre guillemets ne peut pas être fait à l'anthroposophie parce que des conceptions semblables à la réincarnation ont été enseignées par Gautama Bouddha. Il est cependant nécessaire d'indiquer que la science de l'esprit est un instrument d'examen et d'approfondissement, d'après leurs sources spirituelles, de toutes les religions, aussi bien celle qui est à la base de notre culture européenne, à savoir le christianisme, que le bouddhisme. Analysons l'esprit du bouddhisme et comparons-le à l'esprit du christianisme. Nous ne nous attacherons pas dès le départ à l'étude des grands enseignements, dont l'interprétation peut être faite dans un sens ou l'autre. La meilleure solution est d'examiner les symptômes, l'étendue des représentations et la signification du bouddhisme, donc ce qui est actif dans la conception de la doctrine. Pour ce faire, nous pouvons nous en tenir à un document bouddhique très apprécié, les questions du roi Milinda au sage Nagasena. Il s'agit d'un entretien qui donne de la façon la plus précise une idée sur la pensée bouddhique. Milinda, monarque puissant et plein d'esprit, qui n'a jamais été vaincu par aucun sage, car il savait toujours répondre à tous les problèmes qu'on lui posait, désire parler avec Nagasena du sens de l'éternité, de l'immortalité dans la nature humaine, de ce qui transite d'incarnation en incarnation. Nagasena demande au roi Milinda « Comment es-tu venu ici ? À pied ou en char ?»«
En char. »
« Bien, » répond Nagasena. « Essayons maintenant de voir ce qu'est un char. »
« Le timon est-il le char ? »
« Non. »
« La roue est-elle le char ? »
« Non. »
« Le joug est-il le char ? »
« Non. »
« Le siège sur lequel tu étais assis est-il le char ?»«
Ben non. »
« Et ainsi, » dit Nagasena, « on peut passer toutes les parties en revue. Aucune n'est le char. Pourtant, le char que nous avons devant nous est fait de ces différentes parties rassemblées. Ce n'est qu'un nom, représentatif de la combinaison des parties. Si nous faisons abstraction des parties, il ne reste que le nom. »
Précisons le sens du raisonnement de Nagasena. Il faut faire abstraction de tout ce sur quoi l'œil se pose dans le monde sensible. Étant donné que rien dans le monde physique ne stipule un lien quelconque avec le « non », entre guillemets, la démonstration est donc faite de la non-valeur, de la non-signification du physique sensible considéré dans ses parties. Pour éclaircir cette comparaison, Nagasena dit « Il en est ainsi pour tout ce que l'être humain embrasse et pour tout ce qui transite d'une incarnation à l'autre. Les mains et les jambes passent-elles d'une vie à l'autre ?
Non.
Ce que tu fais aujourd'hui et que tu feras demain, est-ce cela qui passe d'une vie à l'autre ?
Non.
Qu'est-ce donc que nous saisissons dans un être humain ?
Le nom et la forme.
Or, nous retrouvons ici la similitude avec le concept du nom et de la forme du char. Si nous considérons les différentes parties sous la forme d'un ensemble, nous obtenons un nom. Il ne comporte rien de spécial en plus des parties. Pour rendre cet aspect encore plus sensible, dirigeons notre attention sur une autre comparaison que le sage Nagasena développe devant le roi Milinda. Tu dis, sage Nagasena, commença le roi Milinda, que le nom et la forme de l'être humain que je vois en ce moment devant moi transitent d'une incarnation à l'autre. Sont-ce le nom et la forme de la même entité qui réapparaissent dans la nouvelle incarnation pour vivre une nouvelle vie ? Nagasena répondit : Vois, le manguier porte un fruit. Un voleur vient et dérobe ce fruit. Le propriétaire du manguier dit « Tu m'as volé ma mangue !» Mais le voleur répond « Ce n'est pas ta mangue. Ce qui était à toi, c'est ce que tu as planté en terre et qui s'est décomposé. Mais ce qui pousse sur le manguier emporte seulement le nom. Ce n'est pas ta mangue. »
Cela est vrai, pensait Nagasena. Cette mangue porte le même nom et a la même forme que celle qui a été plantée. Mais ce n'est pas le même fruit. On peut cependant punir le voleur, puisqu'il l'a volé.
Il en est ainsi de ce qui apparaît dans une vie terrestre par rapport à ce qui existait dans les incarnations antérieures. De même avec le fruit du manguier. C'est parce que le propriétaire a planté le fruit que l'arbre pousse et qu'il porte des mangues. On doit considérer que la mangue sur l'arbre est la propriété de celui qui a planté le fruit. Pour en revenir à l'être humain, la comparaison s'applique aux actes et aux destinées de la nouvelle vie. Ce sont les réalités et les fruits de la vie antérieure. Mais ce qui apparaît est pourtant nouveau, ainsi du fruit sur le manguier. Nagasena, par ses réflexions, s'appliquait à effacer ce qui avait existé dans une vie pour montrer que seuls les effets en transitaient dans la vie ultérieure. Ces exemples sont un meilleur moyen pour pressentir l'esprit de l'enseignement bouddhique que les grandes doctrines que l'on peut toujours interpréter d'une manière ou d'une autre. En y réfléchissant, on voit bien que le bouddhiste cherche à détourner ses adeptes de ce que nous considérons comme un « je » particulier, une personnalité en soi. Il insiste principalement sur le fait que ce qui apparaît dans une nouvelle incarnation est certes le résultat des actes accomplis par cette personnalité,
mais qu'on n'a pas le droit de parler d'un jeu unique au sens réel du mot, qui se prolonge et s'étend d'une vie à l'autre. Revenons au christianisme, et bien que cette comparaison n'ait jamais été choisie, transposons l'exemple de Nagasena dans le sens chrétien et formulons-le ainsi. Le roi Milinda pourrait par exemple être ressuscité et être, disons, le Christ. L'entretien devrait se traduire ainsi si l'esprit du christianisme y jouait. Nagasena devrait dire « Vois cette main. Est-elle l'être humain ? Non. La main n'est pas l'être humain, car si nous ne voyons qu'une main seulement, nous ne voyons pas l'être humain. Mais si nous coupons la main, elle sèche, et au bout de 3 semaines, elle n'est plus rien d'une main. Par quoi donc la main demeure-t-elle main ? Par l'être humain. Le cœur est-il l'être humain ? Non. Le cœur représente-t-il quelque chose en soi ? Non, car si nous enlevons le cœur et l'éloignons de l'être humain, il n'est bientôt plus un cœur, et l'être humain n'est plus un être humain. Donc c'est par l'être humain que le cœur est cœur, et par le cœur que l'être humain est être humain. Mais par ailleurs, l'être humain n'est-il un être humain sur la terre que par le seul fait qu'il possède un cœur et s'en sert comme instrument ? Ainsi, il existe dans l'organisme vivant de l'être humain des parties qui, en tant que parties, ne sont rien, mais n'existent que par les combinaisons qu'elles forment entre elles. Considérons ce que les parties séparées ne sont pas, et nous sommes obligés d'en revenir à ce qui se tient derrière elles, qui est invisible, maintient leur agrégat, s'en sert comme d'instrument et les emploie. Si nous observons les différentes parties et l'ensemble qu'elles forment, nous ne saisissons tout de même pas l'être humain. Nagasena pourrait revenir à la comparaison du char et dire, mais dans l'esprit du christianisme cette fois, il est vrai que le timon n'est pas le char, car tu ne peux voyager sur un timon. Il est vrai que les roues ne sont pas le char, car tu ne peux voyager sur les roues. Il est vrai que le joug n'est pas le char, car tu ne peux voyager avec le joug seul. Il est vrai que le siège n'est pas le char, car tu ne peux voyager avec le siège seul. Bien que le mot char ne soit que le nom générique représentant la combinaison de ces différentes parties, il est pourtant vrai que tu voyages avec quelque chose qui n'est pas les parties seulement. Le nom, entre guillemets, est donc quelque chose de particulier. Il conduit à quelque chose qui ne se trouve pas dans les parties. L'effort de l'esprit bouddhiste consiste à détourner le regard de ce que l'on voit pour sortir du visible et s'élever au-dessus du visible. Il nie la possibilité de trouver quelque chose de particulier dans le visible. L'esprit de la pensée chrétienne, et c'est d'elle qu'il s'agit, voit les parties du char ou de n'importe quel autre objet extérieur, mais dépasse la notion des parties pour mettre l'accent sur l'ensemble. Les conséquences de la conception bouddhiste et de la conception chrétienne sont différentes. Suivons-les jusqu'au bout. Voici un être humain. Il est composé de parties distinctes. Il travaille dans le monde. Il accomplit tel ou tel acte. D'après l'esprit de la confession bouddhique, on lui montrera que tout ce qu'il fait est sans valeur. On lui en démontrera le néant, l'inexistence. On lui expliquera qu'il doit se libérer des liens qui l'attachent au néant pour atteindre l'existence réelle supérieure, qu'il doit détourner le regard des objets sur lesquels ses yeux se posent et qui pourraient lui faire acquérir un pouvoir quelconque de connaissance humaine du monde sensible. Écarter le monde. Car ce qui s'y trouve, même si nous n'en appréhendons que le nom et la forme, n'est rien d'autre que néant. Il n'existe aucune vérité dans le monde sensible. À quoi conduit la conception chrétienne ? Elle ne considère pas la partie en soi, mais elle voit vivre le tout dans la partie, un tout réel, unique. La main n'est main que parce que l'être humain l'emploie et qu'il en fait sa main. Ce que voit l'œil est quelque chose qui désigne immédiatement ce qui est derrière. La conséquence en est tout autre que dans le bouddhisme. En effet, nous pouvons dire « Voici un être humain. Ce qu'il est comme être humain, avec les différentes parties qui le composent, les actes qu'il accomplit, il ne peut l'être que parce que l'entité spirituelle de l'être humain se tient derrière lui, qui fait et agit là où il fait et agit, qui met aussi bien les parties en mouvement, qu'il accomplit les différentes actions. Ce que l'on voit vivre dans les parties s'est déversé dans ce que l'on voit. Cela va susciter des fruits dans ce que l'on voit, des résultats, extraire de l'expérience dans le monde sensible ce que nous appelons un résultat, le transporter dans une incarnation suivante, dans une vie suivante. Un acteur très actif se tient derrière toute expérience extérieure. Il ne repousse ni ne rejette le monde extérieur, mais il le manie de façon à en extraire les fruits et à les transporter dans la vie suivante. Mais un adepte de la connaissance spirituelle, réfléchissant aux problèmes des vies terrestres successives, peut se dire « Ce qui maintient ensemble les diverses parties de l'être humain, ce qui rend sa structure cohérente, n'a pas d'existence ni de sens pour le bouddhiste. Seuls ses actes ont des conséquences dans la vie suivante. Mais pour le chrétien, ce qui rend l'être humain cohérent, c'est le « je ». Il existe. Il porte lui-même dans la vie suivante tous les fruits de la vie précédente. Une structure de pensée tout à fait spéciale, mieux que l'exposé des théories et des principes, sépare et distingue totalement ces deux conceptions. Si notre époque n'avait pas tellement tendance à tout étudier d'après des théories, on comprendrait plus facilement le caractère d'un chemin spirituel d'après son mode de représentation, ses symptômes. Ce qui vient d'être dit se rapporte en définitive à la pensée bouddhique d'une part et à la pensée chrétienne d'autre part. Pour ce qui est de la pensée bouddhique, le centre, le noyau même de l'enseignement nous est donné par le représentant du bouddhisme lui-même. Il n'est pas question ici d'exprimer quoi que ce soit contre la conception bouddhiste, mais seulement de caractériser de façon parfaitement objective la conception du monde selon Bouddha. La science de l'esprit est un instrument convenable pour apprécier sans sympathie ni antipathie particulière tous les courants spirituels existants. La légende compte sous forme imagée ce que voulait le représentant du bouddhisme. Gautama Bouddha, dit-elle, était fils du roi Suddhodana et fut élevé dans un palais princier où il était entouré de tout ce qui fait le charme de l'existence. Il n'apprit jamais à connaître la souffrance ou la douleur humaine. Le bonheur, la joie et les distractions étaient ses seules occupations. Mais un jour, sortant du palais royal, il perçut les misères et les souffrances et vit pour la première fois le côté sombre de la vie. Il rencontra un lépreux, puis un vieillard tout flétri, enfin et surtout un cadavre. Il se rendit compte dès cet instant que la vie était tout autre qu'elle ne lui était jusqu'alors apparue dans son palais princier, où la joie seule avait droit de cité, où jamais la maladie ni la mort n'avaient pénétré. Il en conçut l'idée que la vie pouvait se flétrir et mourir. Ayant appris que la vie enfermait en elle peine et souffrance, son âme en fut bouleversée et alourdie. Le souvenir du vieillard, du malade et du cadavre voilait tout ce que la vie lui apportait. Quel mérite, quelle valeur a-t-elle donc, puisque la vieillesse, la maladie, la mort lui sont innées? C'est à partir de ces réflexions que se développa le monumental enseignement de Bouddha sur la souffrance qu'il résuma ainsi. Naître, c'est souffrir. Vieillir, c'est souffrir. Être malade, c'est souffrir. Mourir, c'est souffrir. Toute existence est emplie de souffrance. Bouddha étendit plus tard cet enseignement et l'élargit ainsi. Être séparé de ce que l'on aime, c'est souffrir. Être uni à ce que l'on n'aime pas, c'est souffrir. Ne pas obtenir ce que l'on désire, c'est souffrir. Ainsi, la souffrance est partout où le regard se pose. bien que le mot « souffrir » entre guillemets n'ait pas eu tout à fait au temps de Bouddha le sens qu'il possède aujourd'hui, il est cependant certain que Bouddha pensait que l'être humain était la victime de tout ce qui, de l'extérieur, se précipitait sur lui et contre quoi il ne pouvait pas lutter, ne possédant pas les forces actives nécessaires. La vie est donc souffrance. C'est pourquoi il faut rechercher les causes de la souffrance. Alors se présenta à son âme une intuition qu'il décrivit par « la soif d'être », « la soif d'exister ». Puisque partout dans le monde nous découvrons la souffrance, il faut se dire « l'être humain entrant dans ce monde de souffrance doit être attaqué par la souffrance ». Pourquoi l'être humain doit-il souffrir ? Parce qu'il possède un instinct, un désir, une soif de s'incarner. Cette envie, ce besoin de quitter le monde spirituel pour entrer dans une corporéité physique et percevoir le monde physique extérieur sont la cause de l'existence. Par conséquent, la seule possibilité de se délivrer de la souffrance, c'est de combattre cette soif d'existence. Bouddha donna le moyen, l'instrument de ce combat. C'est le chemin octuple. Le chemin octuple est fort connu, il suffit donc de rappeler qu'il consiste en 8 voies à suivre. Discernement juste, but juste, parole juste, acte juste, vie juste, aspiration juste, pensée juste, méditation juste. Avoir dans la vie une position juste, c'est-à-dire, d'après le Bouddha, développer peu à peu ce qui permet de tuer le désir de l'existence et conduit à n'être plus tenté de descendre en incarnation physique, à être délivré d'une existence dans laquelle la souffrance se déverse de partout, ce sont, selon Bouddha, les 4 vérités sacrées. Premièrement, connaissance de la souffrance. 2. Connaissance de la cause de la souffrance. 3. Connaissance de la nécessité d'abolir la souffrance. 4. Connaissance du moyen de supprimer la souffrance. Ce sont là les 4 vérités sacrées qu'après son illumination sous l'arbre Bodhi, Bouddha annonça lors du grand sermon de Bénarès entre le 5e et le 6e siècle avant notre ère. Libération des douleurs de l'existence. Cette formule est au premier plan du bouddhisme. C'est donc une religion de la délivrance, au sens le plus éminent du mot. Et puisque toute existence est liée à la souffrance, c'est donc la libération de l'existence au cours des incarnations successives. Cette délivrance est tout à fait en accord avec ce qui a été mentionné plus haut sur le mode de représentation de la pensée bouddhique. En effet, si la pensée qui s'attache au monde extérieur n'y rencontre que néant et illusion, si ce qui garde la structure humaine cohérente n'est rien d'autre que nom et forme, si rien ne transite plus d'une incarnation à l'autre, du jeu qui a dirigé et accompli des actions humaines, on peut dire alors que la « vraie vie » entre guillemets est enfin conquise, l'être humain se détachant de tout ce qui se trouve dans le monde extérieur sensible. Si par contre, et dans le même sens, on appelait le christianisme une religion de la délivrance, ce ne serait pas juste et une simple remarque le démontre. Plaçons de ce point de vue, et de façon correcte, le christianisme à côté du bouddhisme. Il faudrait alors l'appeler une religion de la renaissance, entre guillemets. Le christianisme part du fait que tout ce qui se passe dans la vie d'un être humain produit des fruits ayant importance et valeur pour l'entité intérieure, et qui sont emportés dans une autre vie où ils sont vécus à un degré supérieur de perfection, sublimé pour ainsi dire. Tout ce que l'être humain éprouve, tous les dons qu'il extrait d'une seule vie, tout cela réapparaît toujours augmentant en perfection pour en fin de compte prendre forme spirituelle. L'esprit se saisit de ce qui semble le plus négatif, le plus illusoire même dans une existence, l'éveille à un niveau plus parfait et l'incorpore à l'esprit. rien n'est néant dans la vie, car tout renaît lorsque l'esprit l'a transposé dans une forme plus juste. Une religion de la renaissance, de la résurrection du meilleur, de ce que nous avons vécu, voilà le christianisme et sa pensée profonde, d'après laquelle tout ce qui nous entoure n'est jamais illusoire ni négatif, mais pierre de construction pour édifier le grand monument, résultat de la réunion, de l'assemblage de tout le spirituel que nous pouvons trouver dans le monde sensible. Le bouddhisme est une religion de la délivrance de l'existence, tandis qu'au contraire, le christianisme est une religion de la renaissance à un niveau plus spirituel. Cette manière de penser est perceptible du plus petit au plus grand et jusqu'au dernier principe. Les causes réelles de cette énorme différence tiennent au caractère très distinct de la culture orientale et de la culture occidentale, différence radicale entre la manière de penser et de se représenter dans la culture dont le bouddhisme est issu et celle de la culture dans laquelle le christianisme s'est déversé. On peut s'en faire une idée par quelques notions simples. Toute culture orientale qui n'a pas été fécondée par l'Occident est anti-historique, tandis que toutes les cultures occidentales sont historiques. C'est un autre aspect de la différence entre la manière de penser chrétienne et bouddhique. La pensée chrétienne est historique. Elle reconnaît non seulement que la réincarnation existe, mais que par elle l'histoire se fait. Cela signifie que ce qui a tout d'abord été vécu à un degré imparfait peut, au cours d'incarnations successives, évoluer vers des degrés toujours plus parfaits. Le but du bouddhisme est la délivrance de l'existence terrestre et l'ascension vers le nirvana. Le christianisme voit le but de son développement dans le fait que tous les résultats, toutes les acquisitions d'une vie terrestre resplendissent de plus en plus parfaits et ressuscitent spiritualisés à la fin de l'existence de la terre. Le bouddhisme est non historique au sens réel de la culture dans laquelle il a fleuri. En effet, il place le monde en face de l'être humain et lui oppose celui-ci quant à l'action qu'il peut avoir dans le monde. L'adepte bouddhiste dit « Considérons les incarnations antérieures de l'être humain, puis les incarnations futures. L'être humain s'oppose au monde. Il ne demande pas l'être humain n'avait-il pas jadis une autre position vis-à-vis du monde? Ou bien à l'avenir, n'en aura-t-il pas une différente? Mais c'est la question que pose le christianisme. C'est pourquoi le bouddhisme conçoit que le rapport de l'être humain au monde dans lequel il est incorporé est, a été et sera toujours le même. Que l'être humain poussé par la soif d'être descend s'incarner dans un monde de souffrance. Qu'il est indifférent que la soif d'exister l'ait déjà poussée dans le passé à s'incarner ou qu'elle le pousse maintenant. Le monde extérieur, en tout état de cause, lui apportera toujours la souffrance. Les existences se répètent sans que la notion d'évolution se transforme en vérité historique. Il est donc compréhensible qu'au fond, le bouddhisme ne puisse voir son nirvana, état de bonheur, de sérénité, de béatitude parfaite, que dans le rejet, l'abolition de ces éternels retours à l'existence. Il est clair que le bouddhisme place la source de la souffrance dans le monde extérieur même. Il affirme « Si tu t'adonnes au monde des sens, tu souffriras. Le monde des sens t'apportera la souffrance. » C'est un point de vue non chrétien. La conception chrétienne est historique. L'être humain, passant d'incarnation en incarnation, se trouve face au monde. Mais si ce monde lui apporte la souffrance, s'il lui apporte des expériences qui ne le satisfont pas, ne l'emplissant pas d'un sentiment de vie intérieure harmonieuse, cela ne vient pas de l'existence qui est ainsi faite que l'être humain doive absolument souffrir, mais de ce que l'être humain est dans un rapport faux avec le monde, que sa position dans le monde n'est pas juste. Le christianisme et l'Ancien Testament marquent par un certain événement que l'être humain a évolué intérieurement, si bien que son existence dans le monde est devenue source de souffrance à cause de son propre être intérieur. Ce n'est donc pas le monde sensible, ni ce qui pénètre en nos yeux, ni ce qui résonne à nos oreilles, ni le monde où nous sommes incarnés qui nous apporte la souffrance, mais bien la condition humaine. Le genre humain a laissé grandir jadis en lui ce qui l'empêche d'être en juste relation avec le monde sensible. Ce qui a pris naissance en l'être humain à ce moment-là a été transmis de génération en génération, de là l'existence de la souffrance. Donc, au sens chrétien, on peut dire que dès le début de leur existence terrestre, les êtres humains se sont eux-mêmes placés dans une position fausse en regard du monde sensible. Nous pourrions étendre cette observation aux enseignements de base des deux religions. Le bouddhisme insiste toujours sur l'illusion, la maya du monde sensible. Le christianisme, par contre, dit « L'être humain peut tout d'abord penser que ce qu'il voit dans le monde n'est qu'illusion, mais cela ne dépend que de lui. Il s'est construit des organes qui l'empêchent de percer le voile du monde sensible derrière lequel le monde spirituel est caché. Le monde n'est pas illusion, mais l'être humain et sa manière de voir sont à l'origine de l'illusion. Il est bouddhique de dire « Vois les rochers qui t'entourent, l'éclair qui fulgure. Tout cela est maya, illusion. Le tonnerre qui gronde est maya, c'est la grande illusion, car le monde est maya, il est la grande illusion. » Aucun chrétien n'affirmerait cela, mais l'être humain n'a pas jusqu'à ce jour trouvé la possibilité d'ouvrir ses sens spirituels. Ses yeux et ses oreilles spirituelles, dirait Goethe. Il lui montrerait quelle est la vraie forme du monde sensible. La raison pour laquelle nous sommes entourés par la maya, l'illusion du monde, n'est pas que le monde est lui-même maya, mais que l'être humain est un être imparfait. Qu'il n'est pas encore arrivé à voir le monde sensible sous sa vraie forme. Le christianisme cherche dans un événement préhistorique la raison qui a rendu l'être humain incapable de voir le monde extérieur tel qu'il est. L'évolution, au travers des incarnations, a pour but d'acquérir à nouveau ce que l'on peut appeler les yeux et les oreilles spirituelles pour voir enfin le monde tel qu'il est. Les incarnations successives ont donc un sens. Elles sont le chemin qui mène à la vision de ce dont le bouddhisme veut libérer l'être humain. Vision de l'esprit dans le monde extérieur sensible. Conquête du monde qui aujourd'hui nous apparaît sous son seul aspect physique, grâce à quelque chose que l'être humain ne possède pas encore, mais qu'il acquérera, le spirituel. Victoire sur l'erreur humaine qui fait croire que le monde est maya et illusion, voilà l'impulsion intérieure profonde du christianisme. Le christianisme ne dit pas « Le monde est source de souffrance, sortons de ce monde, allons dans un monde différent », le nirvana. Au contraire, il place le Christ au centre du monde, Christ dont la puissante impulsion doit faire progresser le monde. Christ qui a apporté au monde l'avertissement le plus grandiose quant au contenu de l'être intérieur de l'être humain, centre où les forces peuvent désormais grandir et qui utilisera chaque incarnation terrestre pour en extraire tous les fruits et les transposer lui-même dans une existence future. Les incarnations ne doivent pas être supprimées pour que l'entité entre dans un nirvana, mais tout ce qui a été recueilli doit être élaboré afin de pouvoir ressuscité au sens de l'esprit. C'est là la grande, la profonde différence entre le bouddhisme, dont la conception est anti-historique, et le christianisme qui pense et conçoit historiquement. Celui-ci cherche l'origine de toute souffrance dans la chute, entre guillemets, et trouve dans la résurrection l'abolition, la guérison de toute souffrance. Vous ne vous libérerez pas de la souffrance en échappant à la terre, mais en réparant l'erreur qui a placé l'être humain en position fausse par rapport au monde. C'est en vous-même que vous découvrirez la raison pour laquelle le monde est source de souffrance. Quand votre rapport avec le monde sera correct, vous verrez que le monde extérieur, en vérité, s'efface comme le nuage devant le soleil. mais que tous les actes que vous avez accomplis pendant que vous viviez en lui ressuscitent en esprit. C'est cela qui fait du christianisme un enseignement de la renaissance, de la résurrection, et c'est seulement sous cet aspect qu'on peut le comparer au bouddhisme. Nous avons vu d'un point de vue de la conception spirituelle les impulsions les plus profondes de ces deux enseignements. On peut justifier, confirmer, jusque dans les détails ce qui vient d'être dit de façon très générale. Ainsi, il existe dans le bouddhisme un discours comparable au sermon sur la montagne. Il y est dit « Celui qui écoute la loi, c'est-à-dire la loi annoncée par le Bouddha, est heureux ou bienheureux. Celui qui s'élève au-dessus des désirs et passions est bienheureux. Celui qui vit dans la solitude est bienheureux. Celui qui vit avec les créatures sans faire le mal est bienheureux, et ainsi de suite. » On pourrait ainsi considérer les béatitudes bouddhiques comme le modèle des béatitudes du sermon sur la montagne, exprimé dans l'évangile de saint Matthieu. Et il faut les comparer de façon correcte. Nous entendons tout d'abord ces paroles puissantes. Bienheureux les mendiants de l'esprit, car ils trouveront en eux le royaume du ciel. Il n'est pas seulement dit « bienheureux ceux qui écoutent la loi », mais une proposition s'ajoute à la phrase. Il est dit « bienheureux les pauvres en esprit, car ils doivent faire effort pour trouver l'esprit ». Entre guillemets, car à eux seront les royaumes du ciel. Qu'est-ce à dire? On ne comprend cette phrase qu'en replaçant devant l'âme toute la pensée historique de la conception chrétienne. Il faut savoir que toute faculté physique humaine a une histoire, qu'elle a évolué. La science de l'esprit connaît ce mot d'évolution sous son sens réel et véritable. Tout ce qui existe aujourd'hui n'a pas toujours existé. Ce que nous appelons notre intelligence, notre raison, notre pensée scientifique, n'existait pas aux périodes anciennes de l'humanité. Par contre, à ces mêmes époques, l'être humain possédait une clairvoyance sourde, rêveuse. L'être humain, jadis, n'a jamais acquis de connaissances sur le monde extérieur à la manière dont il les acquiert aujourd'hui. Une sagesse originelle montait en lui, lui conférant des connaissances infiniment plus élevées que tout ce qu'on a pu découvrir depuis. Qui connaît l'histoire sait aussi que cette sagesse originelle existe. Jadis, l'humanité ne savait pas construire des machines, des trains, etc., ni asservir les forces de la nature pour dominer le monde. Par contre, les êtres humains en concevaient les origines divines spirituelles et leur science à ce sujet dépassait de loin celle que nous possédons actuellement. Leur conception n'était d'ailleurs pas acquise par la réflexion. Le croire serait tout à fait faux. On ne pouvait pas procéder comme la science procède maintenant. Des suggestions, des inspirations pointaient dans l'âme, comme des révélations assez vagues qui ne dépendaient pas de la volonté. Cependant, on se rendait compte qu'elles étaient en soi, comme des images réelles du monde spirituel, de la sagesse originelle véritable. L'évolution humaine consistait à progresser de vie en vie et à recevoir de moins en moins de révélations de cette sagesse originelle, d'avoir de moins en moins de clairvoyance atavique. L'être humain devait en effet perdre cette ancienne clairvoyance et à sa place devait naître l'activité intelligente qui appréhende les objets. À l'avenir, l'être humain retrouvera ces deux genres de connaissances. Il redeviendra clairvoyant dans le monde spirituel et pourra en même temps se servir des formes de la connaissance moderne. Nous vivons aujourd'hui dans un état intermédiaire. L'ancienne clairvoyance est perdue, et ce que l'être humain possède aujourd'hui est né et s'est développé au cours du temps. Qu'est-ce qui permit à l'être humain, dans un effort intérieur de soi-conscience, de connaître le monde sensible par le moyen de l'intelligence? Quand la conscience de soi apparut-elle? Elle apparut à l'époque de la naissance du Christ Jésus. On n'observe d'ordinaire pas l'évolution de cette façon aussi exacte. Les êtres humains à cette époque se trouvaient à un tournant de l'évolution. l'ancienne clairvoyance de rêve avait disparu. C'était le point de départ de ce que nous considérons aujourd'hui comme l'une de nos plus belles acquisitions. La naissance de Jésus-Christ marque le point tournant entre les temps antiques et les temps modernes, entre l'ancienne et la nouvelle conception du monde. On peut vraiment parler d'expression technique employée par Jean-Baptiste pour désigner cette acquisition nouvelle de l'être humain, commençant avec la soi-conscience, et non pas grâce à des inspirations, à connaître le monde autour de lui. Entre guillemets, le royaume du ciel s'est approché. C'est-à-dire la connaissance du monde par les notions et les idées. Ou en d'autres termes, l'être humain n'est plus instruit par sa conscience clairvoyante, atavique, mais c'est de lui-même qu'il va mener sa propre quête dans le monde. C'est Jésus-Christ qui a apporté la plus forte impulsion pour que le « je » humain, non plus les inspirations inconscientes, devienne connaissant. C'est pourquoi cette première béatitude du sermon sur la montagne contient un élément très profond que l'on pourrait traduire ainsi. Les êtres humains sont actuellement des mendiants de l'esprit. Jadis, leur clairvoyance leur permettait de voir le monde spirituel. Maintenant qu'ils l'ont perdu, le temps vient où par la force intérieure de leur « je », la parole intérieure révélée transformera, métamorphosera l'antique clairvoyance. Bienheureux sont non seulement ceux qui jadis ont connu l'esprit par leurs inspirations indécises, vagues, rêveuses, mais surtout bienheureux sont ceux qui ne sont plus clairvoyants parce que l'évolution a conduit à ce stade. Ils ne sont pas malheureux tous ceux qui mendient l'esprit parce qu'ils sont pauvres en esprit. Ils sont au contraire bienheureux car ce qui se révèle à leur « je » leur appartient. Ils l'ont acquis par leur conscience personnelle. Voyons la suite. Bienheureux ceux qui souffrent, car même si le monde sensible est cause de souffrance, parce que la position humaine dans le monde est fausse, le temps est cependant venu où l'être humain ayant acquis la conscience personnelle développera les forces latentes en son « je », découvrira et reconnaîtra le moyen de guérir la souffrance. Il découvrira en lui-même la consolation. Le temps est venu où toute consolation extérieure perd sa signification singulière, parce que le « je » doit avoir la force de trouver de l'intérieur le moyen de guérir sa souffrance. Bienheureux ceux qui ne trouvent plus dans le monde ce qu'ils y trouvaient jadis. Ainsi, au sens suprême de la béatitude, bienheureux ceux qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dans le « je » existe une source de justice qui compensera toute injustice dans le monde. Ainsi, le Christ Jésus est référence du « je », de la partie divine dans l'être humain. Il est aussi avertissement. Prends en ton être intime ce qui vit en Christ comme modèle. Tu trouveras la force d'emporter d'une incarnation dans la suivante les fruits de l'existence terrestre. Il est un événement dans le christianisme que l'on ressent d'abord sous son aspect douloureux. C'est la mort du Christ Jésus, le mystère du Golgotha. Cette mort n'a pas le sens ordinaire de toute mort. La mort du Christ est le point de départ de la vie immortelle, invincible. Le Christ Jésus ne cherche pas par la mort à se délivrer de la vie. Cette mort, il la vit parce qu'elle porte en elle une force dynamique de progrès et que la vie éternelle, impérissable, doit en découler. Lorsque la compréhension de l'impulsion du Christ sera meilleure qu'elle n'est encore aujourd'hui, on reconnaîtra cette vérité, qui fut déjà ressentie au premier siècle chrétien. On comprendra alors que 6 siècles avant Jésus-Christ, l'un des plus grands parmi les êtres humains, sortant de son palais et rencontrant un mort, un cadavre formula le jugement. La mort est souffrance. Se libérer de la mort est une délivrance. Et qu'il ne voulut rien avoir à faire avec ce qui est soumis à la mort. Puis, 6 siècles passent, et encore 6 siècles. Un symbole est alors érigé que l'humanité future comprendra. Quel est ce symbole ? ce ne fut pas un Bouddha, ce ne fut pas un être humain élu, mais des gens très naïfs qui virent le symbole, la croix érigée et le cadavre qui était cloué. Ils ne dirent pas « la mort est souffrance ». Ils ne se détournèrent pas. Ils virent en ce cadavre la caution, la garantie de la vie éternelle, de ce qui vint toute mort, qui dépasse le monde sensible. Le noble Bouddha vit un cadavre. Il se détourna du monde des sens et dit « la mort est souffrance ». Les gens naïfs qui virent la croix et le cadavre ne se détournèrent pas. Ils surent qu'ils contemplaient un témoignage de vie éternelle issu de cette mort. Ainsi, 6 siècles avant la formation du christianisme, le Bouddha devant le cadavre, et 6 siècles après l'apparition du Christ, des gens simples qui virent le symbole exprimant tout ce qui était advenu par la fondation du christianisme. Jamais une telle révolution n'avait encore à ce point marqué l'humanité. Quand on étudie les choses avec clarté et objectivité, on comprend en quoi consiste la grandeur, la signification du bouddhisme. Nous avons dit que les êtres humains, au cours de leur incarnation, perdirent de plus en plus la sagesse originelle. La naissance du Bouddha marque la fin de l'ancienne évolution, signifie de façon historique la fin de l'ancien savoir, de l'antique sagesse des origines. C'est pourquoi il est de nécessité historique d'expliquer cette aversion pour la vie. Le Christ est le point de départ d'une nouvelle évolution qui voit dans cette vie la source et la cause de ce qui est éternel. Aucune explication de ce fait important n'a encore été mentionnée jusqu'ici. C'est la raison pour laquelle, à notre époque, des êtres humains à la nature noble, ne trouvant pas dans les conceptions existantes ce dont ils ont besoin pour nourrir leur riche vie intérieure, se tournent vers le bouddhisme, croyant y trouver ce qui leur manque. Le bouddhisme, d'une certaine manière, leur montre comment l'être humain, au-dessus et en dehors de l'existence humaine, parvient à un développement particulier de ses forces intérieures, à une certaine élévation d'où il domine son soi inférieur. Mais cela n'est possible qu'en raison du peu de compréhension de l'impulsion immense et de la source profonde du christianisme. La science de l'esprit doit devenir l'instrument d'un approfondissement continu de la pensée chrétienne. L'idée d'évolution prônée par l'anthroposophie peut conduire les êtres humains à cette intime et exacte compréhension du christianisme. L'anthroposophie peut apporter l'espoir que s'élabore, en face d'un christianisme méconnu, un christianisme justement compris, sans qu'il soit besoin d'implanter le bouddhisme dans notre civilisation. Implanter le bouddhisme en Europe relèverait, de la part d'un quelconque mouvement à tendance spiritualiste, d'une conception à courte vue. Qui connaît les conditions de la vie de l'esprit en Europe sait que même ceux qui combattent aujourd'hui le christianisme y ont cependant puisé tout l'arsenal de leurs armes. Si grotesque que cela paraisse, ni Haeckel ni Darwin n'auraient pu inventer leur théorie si leur éducation chrétienne ne leur avait donné la possibilité de penser comme ils l'ont fait. Les formes même de leur pensée, venant de leur éducation chrétienne, leur ont servi à combattre leur propre mère, si je puis m'exprimer ainsi. Tout ce qu'ils disent semble être dirigé contre le christianisme, et est en effet pensé contre lui, comme ils l'affirment. Mais qu'ils puissent penser de cette façon est tout de même dû à leur éducation chrétienne. Il serait par conséquent parfaitement inutile d'implanter les doctrines orientales dans notre culture, car elles contredisent toutes les aspirations de la vie spirituelle occidentale. Il faut seulement voir clair dans les enseignements principaux des deux religions. Lorsqu'on observe la vie de l'esprit d'un peu près, on sait que ces choses sont encore si confuses que des êtres humains, même arrivés au plus haut sommet de la philosophie, se détournent de la vie et se sentent troublés et pleins de sympathie pour les pensées du bouddhisme. Schopenhauer est l'un d'eux. Le nerf de sa vie est bouddhique, si l'on peut s'exprimer ainsi. Quand il dit par exemple « l'image la plus haute que nous puissions nous faire de l'être humain est ce que nous appelons un saint, parce que pendant son existence, il a dominé tout ce qui vient du monde extérieur, qui ne fait que demeurer dans son corps où n'existent plus que des idéaux, qu'il ne désire plus rien, mais attend seulement que ce corps périsse, que disparaisse toute empreinte du monde des sens, afin que par son retrait du monde sensible, il efface sa propre existence sur la terre, que rien ne reste de ce qui mène de la peur à la souffrance, de la souffrance à l'horreur, du plaisir à la peine. Cette conception est le résultat de l'implantation du sentiment bouddhique en Occident. Il faut y répondre par ces paroles. Certes, notre état d'esprit, notre position mal définie peuvent engendrer ce genre de réaction, parce qu'on n'a pas encore bien compris le contenu et la forme de l'impulsion profonde qui vit dans le christianisme. Qu'avons-nous donc conquis par le christianisme ? Si nous nous plaçons au point de vue de la pure impulsion du christianisme, nous rencontrons une très importante personnalité dont la position est opposée à celle de Schopenhauer. Tandis que celui-ci place son idéal dans le détachement de la vie et du monde, Goethe représente avec son Faust un être qui avance de désir en jouissance et de jouissance en désir, mais en définitive se purifie si largement et transforme si bien ses passions que le but suprême de la vie devient sa vraie passion. Son état d'esprit ne lui fait pas dire « J'attends que s'effacent les dernières traces de mon existence terrestre ». Mais « Les traces de ma vie terrestre ne peuvent disparaître même au cours des éons. » Goethe représente dans son Faust ce que dans le même sens et dans le même esprit, arrivé à un âge fort avancé, il dit un jour à son secrétaire Eckermann. Vous conviendrez qu'à la fin du Faust, lorsque l'âme sauvée s'élève vers le ciel, il m'était fort difficile d'arranger la scène. Pour représenter des choses aussi suprasensibles, aussi compliquées à pressentir même, j'aurais bien pu me perdre dans le vague si je n'avais donné à mes intentions poétiques une forme sévèrement circonscrite par les figures et les représentations de l'Église chrétienne. Faust monte donc l'échelle de l'existence de degré en degré en prenant les symboles chrétiens comme point de départ, pénitent, pénitente, ermite, moine, qui le mène du mortel à l'immortel, de la mort à la vie. Ainsi Schopenhauer représente l'élément bouddhique introduit dans la pensée occidentale. J'attends d'atteindre le degré de pureté où avec mon corps s'effaceront à jamais les dernières traces de mon existence terrestre. Schopenhauer croyait pouvoir interpréter, grâce à cette conception, les personnages peints par Raphaël et Le Corrège. Goethe voulait montrer d'une personnalité dynamique consciente que tout ce qui a été conquis sur terre peut durer et s'unir intimement, s'entremêler à l'éternité. Les traces de ma vie terrestre ne peuvent disparaître dans les éons. Voilà la vraie, la réelle impulsion du Christ qui conduit au réveil des actes terrestres spiritualisés. Voilà la religion de la résurrection. Voilà le réveil du meilleur de ce qui a été conquis sur terre. Voilà une conception réaliste qui sait rapporter des hauteurs spirituelles un contenu, une plénitude pour combler l'existence dans le monde sensible. En Goethe apparaît comme un premier rayon d'aurore un christianisme d'avenir. Ce christianisme futur reconnaîtra la grandeur et la signification du bouddhisme, mais au lieu de se détourner des incarnations, il apprendra et comprendra la nécessité d'une existence qui progresse d'incarnation en incarnation. Ainsi, au sens des chrétiens modernes, Goethe tourne son regard vers un passé où l'être humain est né d'un monde. Il regarde le présent où il conquiert ce qui, s'il en saisit le juste fruit, ne disparaîtra pas dans les éons. Goethe, qui au sens anthroposophique du terme s'unit à l'univers, s'unit aussi de l'autre côté au pur contenu du christianisme. C'est pourquoi il dit « Comme au jour que le monde te donna, le soleil de sa place salua les planètes. Tu as bientôt et encore prospéré, fructifié, grandi. selon la loi d'après laquelle tu es venu. C'est ainsi que tu es. Tu ne peux te fuir. Ainsi en décidèrent les Sibylles, ainsi les prophètes. Ces lignes où Goethe relie l'être humain à l'univers montrent aussi que, né de la constellation de l'existence, il est dans le monde quelque chose qui ne peut disparaître, qui doit fêter sa résurrection sous la forme qu'il aura spiritualisée. C'est pourquoi il ajoute ces lignes aux précédentes. Ni le temps, ni aucune puissance ne peuvent morceler, ni disperser l'empreinte d'une forme qui se développe en vivant. Et nous pouvons dire encore, ni la puissance, ni le temps ne laissent disparaître ce qui a été au cours des temps, qui mûrit et porte des fruits pour l'éternité.